Bien. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va vous parler des principes de l'analyse morphologique en paléoanthropologie, histoire de formes et histoire des formes. Vous verrez. C'est mon collègue Stéphane Ducrot. Stéphane Ducrot est directeur de recherche au CNRS. Il appartient à l'IFEP, c'est-à-dire à l'Institut international de paléoprimatologie et paléontologie humaine. Vous voyez, il y a encore les mots évolution et environnement. C'est une unité mixte CNRS-Université de Poitiers. C'est très poétique, il y a un numéro 6046, vous voyez si c'est poétique. Hein. Stéphane est un spécialiste de mammifères, inclut les primates. Il a beaucoup travaillé sur des faunes asiatiques et maintenant il conduit une mission de recherche au Kenya dans un niveau dont l'âge est extrêmement intéressant et qui sera, c'est sûr, prometteur pour quelques brillants résultats. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc Stéphane, à toi. Merci. Merci.
Bien, donc comme Michel Brunet vous l'a précisé, je vais vous parler de forme, de la façon dont on utilise cette notion en paléontologie pour étudier le matériel fossile. Quand on s'intéresse aux organismes qui constituent le monde vivant, une des premières constatations frappantes qu'on puisse faire, c'est l'extraordinaire diversité de formes qu'on peut rencontrer sur Terre. Tout se passe comme si la nature aurait essayé d'innover et de tenter toutes les combinaisons possibles au cours du temps et pour finalement produire une multitude d'organismes et de formes extrêmement variées. Alors nous-mêmes, les humains, nous sommes la résultante d'un ensemble de formes particulières qui ont été héritées au cours de notre histoire et on est également adapté à des fonctions bien précises. Alors la forme, c'est une propriété fondamentale de la matière. Sans forme, il n'y aurait probablement pas de matière. C'est un marqueur également de la biodiversité. Et en biologie, eh bien, cette forme, elle renseigne sur la nature de l'objet et sur son histoire aussi bien individuelle que globale. Cette forme, elle évolue, c'est pas un système statique, elle évolue sans cesse en fonction de l'histoire, de l'environnement, de ce qui nous entoure, de ce qui agit sur un organisme. Et si on prend, par exemple, j'ai mis ici une silhouette de quelque chose qui ressemble à un gorille, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chien, ça peut être une fleur, tout ce qui est être vivant. La forme, en fait, elle se traduit par plusieurs éléments, plusieurs aspects. D'abord, il y a l'aspect général de l'objet qu'on a en face de nous. On a la couleur, la taille, le poids, différentes adaptations. La forme se traduit par différentes adaptations également. Ça peut être aussi des développements qui peuvent être aberrants pour un objet donné. Et donc, l'ensemble de ces aspects reflète notre histoire évolutive. Alors, pour le paléontologue, ce concept de forme, il est essentiel puisque c'est le principal moyen qu'on ait à notre disposition pour faire des hypothèses et pour baser nos interprétations. Mais le problème pour nous paléontologues, c'est qu'on a accès très souvent qu'à un fragment, une partie de cette forme. Quand on a de la chance, un squelette, hein, plus ou moins complet, comme ici, bon, j'ai mis le squelette de Lucie, que tout le monde connaît normalement, je pense. Mais le plus souvent, bon, on a simplement des fragments de formes ou des éléments de ces formes, comme des mandibules, des fragments de mâchoire, des os isolés, ou le plus souvent, des dents, puisque les dents sont les éléments fossiles qu'on retrouve le plus souvent dans le sédiment, puisque ce sont des éléments qui sont beaucoup plus minéralisés que les os, donc qui résistent mieux au processus de fossilisation. Donc, le paléontologue, souvent, il n'a accès qu'à une partie de cette information. Donc, pour la paléontologie, la morphologie, c'est donc une approche qui est cruciale, puisque c'est là-dessus qu'on va se baser. L'étude des fossiles, bon, elle est avant tout et principalement morphologique. Et on est sans cesse à la recherche de nouvelles données morphologiques. Hein. Sans arrêt, on va sur le terrain pour rechercher de nouveaux éléments, des nouveaux indices. Et ça, c'est quelque chose qu'on est constamment obligé de faire pour essayer d'avancer dans les hypothèses qu'on peut formuler, dans les explications qu'on peut proposer sur différents aspects de l'évolution. Alors, on a de la chance parce que les technologies actuelles, elles ont tendance à nous donner accès à des morphologies qui auparavant étaient inaccessibles. Je pense par exemple à des microfossiles, des micro-coquillages qu'on trouve dans les sédiments. Maintenant, on a sans aucun problème accès à leur morphologie complète grâce au microscope électronique à balayage. Mais plus récemment, on a les techniques de microtomographie par rayon X qui nous permettent d'avoir accès à des morphologies qui sont encore plus inaccessibles, comme par exemple des petits fossiles qui sont encroûtés dans un sédiment extrêmement dur et qui donc sont très très difficiles à dégager. Donc avec la microtomographie, on peut normalement sans problème avoir une vue très précise et complète de ces éléments, ou alors des spécimens qui correspondent à des parties internes. Et dans ce cas, bon, bah, je vous ai mis comme exemple le système de l'oreille interne chez l'homme, qui est complètement inclus dans le crâne, qu'on ne peut pas dégager normalement à partir d'un fossile. Mais à partir d'une tomographie, d'une microtomographie, eh ben, on peut extraire une image 3D de cette structure sans aucun problème, sans détruire quoi que ce soit. Et ça, c'est une innovation qui est extrêmement importante pour nous parce que ça nous donne accès à une quantité incroyable de données et d'informations. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec la paléoanthropologie, c'est des charophytes, des zoogones de charophytes. Alors les charophytes, ce sont des plantes qui sont mi-mousse, mi-algues, qui vivent en milieu saumâtre, en milieu continental, et dont les organes reproducteurs, en jaune ici, sont particulièrement utiles dans certains cas pour dater avec précision les sédiments dans lesquels ils sont retrouvés en association avec des fossiles. Et donc, grâce à ces techniques de microtomographie, eh ben, on peut analyser cette enveloppe et voir ce qu'il y a à l'intérieur, le faire tourner dans tous les sens et avoir une vue extrêmement complète de cette structure. Donc ça, c'est juste deux exemples des extraordinaires avancées technologiques qui nous permettent d'avancer, nous, en paléontologie, pour notre travail. Et donc, évidemment, l'anatomie, vous avez compris, c'est le point de départ de toute analyse en systématique, en taxonomie et en phylogénie. phylogénie, c'est-à-dire l'étude des relations entre les êtres vivants. Alors la forme, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Elle peut exprimer une fonction. On a une influence des contraintes biomécaniques sur la morphologie osseuse. Et donc, comme exemple, j'ai pris une phalange de main de chimpanzé comparée à une phalange humaine. Et on peut voir que la courbure de la phalange chez le chimpanzé est plus marquée que chez l'homme. Et ça, bon, bah, c'est essentiellement dû à une adaptation au mode de locomotion chez le chimpanzé qui se suspend ou, aux branches des arbres plus souvent que l'homme au cours de sa vie, de son existence. Donc c'est une adaptation morpho-fonctionnelle qui peut se voir dont la forme peut se voir sous cette forme. La forme, elle peut également exprimer l'histoire de l'individu, mais sans nécessairement donner d'informations sur la parenté de cet individu. Ces changements, ils peuvent se produire spontanément, généralement en réponse à un environnement particulier ou à un stress. Alors, j'ai choisi trois exemples. On sait maintenant que le stress, quel qu'il soit chez une mère enceinte, peut entraîner l'apparition de maladies comme le diabète chez son enfant. Des études récentes ont montré que si on donne des suppléments alimentaires à des souris de laboratoire, ces suppléments alimentaires, ils peuvent induire un changement dans la couleur du pelage de la souris, peut induire des changements de poids et également la propension chez la souris à développer des cellules cancéreuses. Bon, c'est un gène qu'on a appelé le gène agouti qui est responsable de toutes ces modifications. Et puis un exemple qu'on connaît probablement mieux, dont on a entendu parler probablement plus, c'est l'exemple des substances tératogènes qui, lorsqu'elles sont absorbées par une femme enceinte, conduisent à des malformations dramatiques chez l'enfant. Et enfin, la forme, elle peut exprimer aussi le développement, puisque le développement, c'est la base génétique qui est définie pour chaque espèce. Et chaque espèce possède un même programme génétique qui peut avoir des petites différences minimes au niveau du code génétique, mais qui peuvent se traduire au niveau morphologique par des différences visibles, plus ou moins importantes. Ces variations, elles peuvent être dues donc, à l'information génétique. À ce moment-là, on aura des différences dans la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la stature, la forme du visage, la forme du nez, etc. Ça peut être dû aussi, ces variations peuvent également être dues à des accidents de développement. Alors, des accidents de développement qui ne sont pas dramatiques, ça peut être des dents surnuméraires ou des... Vous voyez, comme ici, sur ce crâne, des dents qui croissent en même temps que les dents définitives. Ces accidents de développement, ils peuvent parfois être utiles en phylogénie s'ils sont non létales et conservés, parce qu'à ce moment-là, ça devient des caractères qu'on peut utiliser pour étudier les organismes les uns par rapport aux autres. Et puis, dans les cas extrêmes, ces variations, ça devient carrément des anomalies ou des pathologies qui, malgré tout, peuvent être parfois utilisées pour expliquer certains stress environnementaux. Je vais vous citer rapidement un exemple. Je crois que Michel Brunet vous l'a cité tout à l'heure. Au Tchad, on a trouvé des mammifères qui étaient aquatiques, qui sont considérés comme les ancêtres des hippopotames. Et ces mammifères, ils se caractérisent entre autres par la présence de 5 prémolaires à la mâchoire supérieure. Or, chez quasiment tous les mammifères, la norme, c'est 4 prémolaires au maximum. Or, ces animaux, ils ont 5 prémolaires. Bien, les collègues qui ont étudié ce matériel, ils ont réussi à montrer que la cinquième prémolaire était apparue au sein d'une population de ces mammifères fossiles qui s'était retrouvée isolée, une petite population isolée, et que cette anomalie dentaire, hein, on peut l'appeler comme ça, en fait, était apparue en réponse à un stress qui devait être probablement une fragmentation de leur aire de répartition. Et ce caractère, 5 prémolaires, il a perduré dans la lignée, dans les lignées de ces animaux. Et donc, ça a une information phylogénétique. Ce cas d'anomalie, on a pu l'utiliser pour proposer une explication à un stress environnemental. Alors, la forme d'une structure ou d'un organisme, elle est liée à une fonction particulière, généralement à l'adaptation à un type de vie ou à un environnement. Et un exemple typique, c'est la morphologie dentaire qui est liée à un régime alimentaire spécifique. Par exemple, chez ce singe qui a une part importante de feuilles dans son régime alimentaire, il a des molaires qui présentent des crêtes transversales qui donnent une plus grande efficacité pour ce type de nourriture, pour écraser ce type de nourriture. Chez un herbivore comme la gazelle, on a aussi des crêtes, mais qui sont en forme de V sur les molaires, et qui donnent une efficacité accrue pour ingérer des végétaux abrasifs, par exemple. Les carnivores, eux, se caractérisent par des dents typiques en forme de lame, puisque, utiles pour couper ou déchirer la viande, qui est à la base de leur régime alimentaire. Et puis, chez différents organismes omnivores, comme l'ours, le cochon ou l'homme au centre, on a une denture qui est plutôt généraliste, peu spécialisée, mais adaptée à un type de nourriture relativement vaste, hein, aussi bien de la viande que des végétaux. Donc, ça, c'est quand même un exemple qui illustre que les dents, entre autres, sont adaptées à certaines conditions. Un autre exemple assez impressionnant, c'est l'adaptation à un mode de vie diurne ou nocturne. Vous avez ici 3 singes, hein, un singe chouette d'Amérique du Sud, un tarsier qui est un petit primate qui vit en Asie du Sud-Est, et un homme. Et vous voyez que sur les 2 premiers, on a des orbites qui sont extrêmement développées par rapport à la taille du crâne. Et ces orbites développées, c'est un signe d'un mode de vie nocturne, parce que les animaux nocturnes ont tendance à avoir des yeux très développés pour avoir une meilleure vue dans des conditions très sombres. Donc toujours la relation forme-fonction. Alors maintenant, je vais passer à la bipédie. Je voudrais dire quelques mots là-dessus. Contrairement à ce que cette illustration pourrait laisser penser, la bipédie, elle n'est pas apparue soudainement comme ça au cours de l'évolution, mais elle a été précédée de tout un cortège de transformations morphologiques et anatomiques. Et ces modifications, elles ont touché l'ensemble du squelette. Il y a eu par exemple une restructuration des os de l'oreille interne qui ont un rôle important dans l'équilibre et la façon dont on se situe dans l'espace, parce que ces processus sont différents selon qu'on a une locomotion bipède ou quadrupède. On a également une relocalisation du foramen magnum à la base du crâne. Le foramen magnum, c'est cet orifice qui se trouve à la base du crâne par lequel passe la moelle épinière qui relie le cerveau et qui passe au travers de la colonne vertébrale. On a également une restructuration de la cage thoracique, une augmentation de la courbure de la colonne vertébrale. L'homme a 2 ou 3 courbures de la colonne vertébrale. Les singes comme les chimpanzés n'ont qu'une seule courbure. Donc, tout ça lié à une adaptation à la bipédie. Une modification structurelle du bassin, des membres inférieurs et postérieurs aussi, des surfaces articulaires qui sont agrandies, un pied bien sûr restructuré, et par-dessus tout ça, une modification de la musculature pour que toutes ces modifications squelettiques, eh bien, que ça puisse à fonctionner correctement. Et donc, l'ensemble de ces changements sur le squelette, eh bien, ça se traduit par une morphologie particulière qui peut être observée et étudiée chez les fossiles. Alors, avant de rentrer dans quelques détails, il faut savoir que marcher sur deux jambes, eh bien, en fait, on a démontré que c'était une forme efficace de locomotion sur le sol en termes de coûts énergétiques et de perte hydrique. Hein, si on regarde un chimpanzé, par exemple, il est plus près de la surface du sol, il est soumis à des températures plus élevées qu'un bipède, hein, rayonnement qui provient du sol. Au contraire, le quadrupède, il offre une surface aux radiations solaires qui est plus importante que le bipède. Le bipède, lui, peut avoir son corps rafraîchi par une quantité de vent plus importante que le quadrupède, toujours pour une question de surface. Et puis, enfin, on s'est rendu compte que le quadrupède, ici, qui est un knuckle walker, c'est-à-dire un animal comme le chimpanzé qui se déplace, enfin, qui s'appuie sur les phalanges de ses mains pour se déplacer, eh bien, un knuckle walker comme le chimpanzé a des besoins hydriques qui sont un peu supérieurs à ceux d'un bipède, puisqu'on a calculé qu'il avait environ besoin de 3 litres d'eau par jour, alors qu'un bipède, lui, n'aurait besoin que d'à peu près 2 litres d'eau par jour. Donc, meilleure efficacité pour ce type de locomotion. Alors, en ce qui concerne les transformations anatomiques, le bassin des chimpanzés, par exemple, on voit qu'il est relativement étroit, très allongé, au contraire du bassin des hominidés, hein, celui de l'homme, le mâle et la femelle, et celui de Lucie, qui, lui, est plus court, mais surtout plus large. Et ça, il y a deux fonctions principales qui sont liées à la bipédie pour cette morphologie de bassin. D'abord, un bassin comme celui des hominidés, eh bien, il a une forme de corbeille qui permet de soutenir de façon plus efficace les viscères lors de la locomotion, lors du déplacement. Hein. Alors que chez le chimpanzé, une partie des viscères est soutenue par la cage thoracique qui est significativement différente de celle d'un bipède. Et puis aussi, ça permet des insertions musculaires ici en rouge, mais qu'on peut placer également sur le bassin humain, des insertions musculaires plus importantes pour relier le bassin au membre inférieur, au fémur, à cause de contraintes, en gros de déséquilibre lors de la locomotion. La marche bipède, c'est un déséquilibre constant. Le bassin oscille constamment lorsque un bipède se déplace. Et pour compenser ce déséquilibre, il y a eu un développement de la masse fessière avec les muscles glutéus, le grand glutéus, le moyen et le petit, hein, qui relient donc le bassin au fémur. C'est en partie pour ça que l'homme, il a un derrière rebondi et pas les singes, par exemple. Et puis on peut citer aussi, par exemple, les muscles, enfin certains muscles du dos, comme le trapèze, qui est plus développé chez le bipède que chez le quadrupède, tout simplement parce qu'une posture érigée demande plus de soutien, un soutien plus efficace, donc des muscles plus développés. Si on fait une radiographie de la partie proximale d'un fémur, donc du col du fémur, on se rend compte que chez l'homme, la corticale, c'est-à-dire la couche d'os qui est en surface du fémur, la couche d'os superficielle, elle est plus fine dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. Et ceci, on pense que c'est en réponse à un stress qui agit principalement de haut en bas lors de la locomotion. Et si on regarde ce même os, le même col, enfin le col du fémur chez un fémur, chez un chimpanzé, et ben là, par contre, on se rend compte que la corticale, elle a à peu près la même épaisseur en haut et en bas, dans la partie supérieure et inférieure. Là, ici, on voit le col du fémur en coupe, simplement parce que les stress sont répartis de façon plus régulière chez cet animal à cause de sa locomotion quadrupède. Donc, on peut voir que même si on n'a pas accès au tissu mou, hein, comme les organes, la peau, les muscles, eh bien, il est quand même possible de proposer des hypothèses, d'inférer que des individus qui ont une morphologie semblable, eh bien, ils ont peut-être une base génétique commune. Et la paléontologie, c'est une science qui est pluridisciplinaire. Elle exploite plusieurs outils qui sont à notre disposition pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose. On peut utiliser la génétique, on peut utiliser la biomécanique, la biologie, l'anatomie, et puis maintenant les mathématiques et l'informatique grâce aux techniques récentes. Cette forme, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'elle est dépendante d'une autre valeur qui est la taille. Hein. La forme, elle exprime la morphologie et la taille d'un objet. Et je voudrais juste dire quelques mots sur le principe d'allométrie, qui est un principe qui définit la relation qui existe entre la taille et la forme. C'est-à-dire que différentes parties du corps, eh ben, elles croissent, elles grandissent à des taux qui sont différents pendant le développement de cet organisme. Donc, le principe d'allométrie, les lois d'allométrie, en fait, elles décrivent de façon quantitative les mécanismes de changement de forme d'un objet vers un autre objet. Et comme exemple, j'ai pris un crâne de babouin, ici un nouveau-né, un jeune, et deux crânes d'adultes. Et ce qu'on peut voir, eh ben, c'est vraiment évident, c'est que la partie crânienne qui correspond à l'enveloppe, à la boîte crânienne, au cours de la croissance de l'animal, eh ben, ça ne grandit pas vraiment beaucoup. La croissance est vraiment, je ne dirais pas minime, mais elle n'est pas vraiment marquée. Alors que, par contre, le museau, la partie faciale, elle grandit énormément. Donc, ça, c'est le principe d'allométrie, ça permet d'expliquer ce genre de situation. Et on s'est rendu compte, en fait, que chez l'homme, eh ben, on avait différentes parties de notre organisme qui se développaient avec des taux différents. Par exemple, le corps continue de grandir depuis la naissance jusqu'à une vingtaine d'années à peu près. Le cœur continue de grandir également pendant 18-20 ans. Par contre, le cerveau, une fois qu'on est né, eh bien, le cerveau a tendance à se développer légèrement jusqu'à 3-4 ans et ensuite, il ne se développe plus. Les bébés ont une grosse tête par rapport à leur corps, mais ils ont à l'intérieur un cerveau qui a la taille d'un cerveau d'un adulte. Et en fait, quand on regarde schématiquement les proportions d'un fœtus au cours de son développement, on voit qu'à partir de 8-9 semaines à peu près, eh bien, la tête d'un fœtus, elle occupe pratiquement la moitié de la taille totale du fœtus. Et bon, la taille de la tête, évidemment, au cours de la croissance, elle diminue. D'accord ? Mais bon, Il faut voir que, heureusement qu'il y a une allométrie dans le développement, entre autres, humain, parce que si la tête évoluait, la taille de la tête évoluait de la même façon que le reste du corps, ben, on aurait quand même vraiment un drôle d'aspect à l'état adulte. Alors, l'allométrie, c'est une donnée qui n'a de sens qu'au travers d'une étude statistique, parce que il serait dangereux d'utiliser l'allométrie pour comparer des individus isolés, parce qu'on arriverait à des raisonnements souvent erronés. L'exemple, c'est de dire, par exemple, bon, Pierre mesure 1m80, la stature est en relation avec la taille du cerveau, Jean mesure 1m60, donc Pierre a un cerveau plus gros que celui de Jean. Hein? Quand on veut étudier la forme, il faut faire une abstraction. Bien que ces deux concepts soient liés, il est nécessaire de les analyser séparément. Et à ce moment-là, on peut évidemment comparer, par exemple, des squelettes de deux organismes qui sont vraiment aussi différents qu'un éléphant et une souris, par exemple, mais en faisant abstraction du concept de taille. Sinon, ça n'a aucun sens. Une dernière chose sur l'allométrie, c'est une méthode qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Darcy Thompson dans les années 30-40. En fait, c'est cette méthode des grilles de déformation permet d'analyser la variabilité de la forme qui peut être visualisée sous forme de ces grilles. Et donc, on peut avoir une orientation de la croissance. En fait, le principe, c'est relativement simple. On détermine plusieurs points particuliers qu'on appelle des points homologues ou des landmarks. Hein, par exemple, un point qui correspond à l'angle entre la branche montante de la mandibule et la branche horizontale de la mandibule, la partie inférieure de l'orbite, le méa acoustique. Et on place ces points sur chacun des objets qu'on veut étudier. On met une grille sur ces objets et on regarde comment la grille doit se déformer pour passer d'une morphologie à une autre. Et ce processus, eh ben, ça permet d'estimer de façon quantitative un degré de ressemblance ou au contraire l'ampleur d'une différence entre deux objets. Et cette méthode, eh ben, elle permet d'apporter des informations essentielles quand on étudie les relations phylogénétiques et évolutives. Alors maintenant, juste, je voudrais parler, je vais donner quelques informations sur la façon dont on analyse cette forme et comment on peut l'exploiter. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en paléontologie, on n'a pas d'accès à la génétique ni aux matières molles. Donc il nous reste un état souvent fragmentaire de la forme. Mais chaque espèce est définie par un ensemble de caractères typiques, on peut appeler ça des caractères diagnostiques aussi, qui n'appartiennent qu'à cette espèce, hein, de la même façon qu'un médecin, quand il essaye de diagnostiquer une maladie chez un patient, eh ben, il recherche un ensemble de caractères, un ensemble de symptômes, et c'est cet ensemble de symptômes qui le conduit à dire, bon ben voilà, je pense que c'est cette maladie. Et ben nous, en paléontologie, on a on utilise le même processus. On utilise des ensembles de caractères pour arriver à une conclusion. Et ça peut s'utiliser, ça peut s'appliquer sur un squelette, quand on a de la chance d'en trouver un, à un crâne, une mandibule, une dent, un fragment de dent parfois. On est capable de le faire pour tous ces éléments. Par exemple, les primates, ben, ils sont définis par un ensemble de caractères diagnostiques dentaires qui permet de les ranger dans différentes boîtes, dans différentes catégories. Par exemple, si on trouve une mandibule, avec mandibule de primate bien sûr, avec les canines et les incisives qui sont transformées en une sorte de peigne, à ce moment-là, on peut se dire, ah, ça doit appartenir à un lémure. Si on trouve une mandibule de singe, avec 3 prémolaires au lieu de 2 prémolaires, on peut se dire, ça, c'est un singe d'Amérique du Sud, parce que les singes d'Afrique et d'Asie, ils ne possèdent que 2 prémolaires à chaque demi-mâchoire. si, par exemple, on trouve une mandibule avec une arcade dentaire qui est en forme de U ouvert, eh bien, on peut se dire ça, c'est de l'homininé. Parce que l'homme, il a une arcade dentaire avec cette forme, alors que les grands singes, comme les chimpanzés ou les gorilles, ont une arcade dentaire qui sera beaucoup plus fermée, en forme de U beaucoup plus fermée. Donc, même si on possède une morphologie qui est fragmentaire, avec simplement quelques indices, on peut quand même considérer qu'on a un outil robuste pour définir un taxon. Un taxon, c'est une espèce, un genre, une famille, ça peut être plusieurs individus, plusieurs objets dans une famille. Donc, le but de la paléontologie, le but ultime, c'est de replacer cette forme qu'on étudie dans un cadre temporel et phylogénétique, donc d'essayer de définir des relations d'ancêtres à descendants. Et à ce moment-là, on ne parle plus de forme en elle-même, mais on parle de caractères auxquels on donne des états ou des polarités. C'est-à-dire qu'on va utiliser la forme pour en faire un caractère qui sera un caractère considéré comme évolué ou dérivé, ou bien un caractère primitif. Je vous ai parlé tout à l'heure du foramen magnum. Bon, c'est cette tache noire, en fait, c'est une ouverture à la base du crâne. Au moins, vous l'avez illustré maintenant. Chez le chimpanzé, le foramen magnum, il est situé à l'arrière du crâne à cause de sa position lors de sa locomotion. La colonne vertébrale est dans l'alignement du crâne. Et comme la colonne vertébrale du chimpanzé est presque horizontale, le foramen magnum est situé à l'arrière du crâne. Chez l'homme, qui est un bipède, le foramen magnum est beaucoup plus situé vers l'avant parce qu'il a une station érigée. De même, comme je viens de vous le dire, l'arcade dentaire chez l'homme est en U ouvert, chez le chimpanzé, elle est en U fermée. Donc, ces deux caractères, chez le chimpanzé, on considère que c'est des caractères primitifs. Chez l'homme, on considère que ce sont des caractères évolués ou dérivés. Donc là, vous voyez, on a une transition entre la forme et la façon dont on l'interprète. C'est l'interprétation de la forme maintenant. Et les caractères et leurs états, généralement, ils sont héritables et transmis d'ancêtre à descendant. Ce qui fait qu'on peut utiliser ces caractères pour proposer des relations phylogénétiques. Et à ce moment-là, on arrive à avoir un outil qui s'appelle la cladistique pour élaborer des phylogénies. Et cette cladistique, elle est basée sur la phénétique, qui est le degré de ressemblance morphologique corrélé au degré de parenté. Donc c'est simplement une ressemblance. Si un objet ressemble à un autre, on fait de la phénétique. D'accord ? On parle souvent de caractère homologue. Un caractère homologue, c'est un caractère qui est hérité depuis un ancêtre commun. Ces caractères homologues, de par ce fait, ils définissent des relations phylogénétiques. Et un exemple classique de caractère homologue ou d'homologie, c'est par exemple l'organisation du membre antérieur, mais ça peut être le membre postérieur aussi, chez différents vertébrés. On a une grenouille, un lézard, un oiseau, mais on voit que chez ces trois animaux, on a une même organisation de base, c'est-à-dire que chez les trois, on a un humérus, on a les deux os constituent l'avant-bras, on a les os du carpe, qui sont les os du poignet, les phalanges. Donc on a la même organisation, même si la forme est un petit peu différente pour chacun d'eux, mais à l'origine, à la base, on a la même organisation. Et donc ça, c'est une homologie. Alors, le piège de la phénétique et de la phylogénie en général, c'est surtout illustré par des caractères dits analogues ou homoplasiques. Je suis désolé pour ces noms barbares, mais c'est des termes qu'on utilise constamment. Ces caractères analogues ou homoplasiques, ce sont des ressemblances qui, par contre, elles, ne peuvent pas être attribuées à une ascendance commune. L'homoplasie, ces caractères homoplasiques, généralement, ils résultent d'une évolution indépendante pour chacun des objets étudiés. Ça peut être une convergence, on appelle ça une convergence, on appelle ça un parallélisme quand les deux organismes sont un peu apparentés, on appelle ça une convergence quand les deux organismes ne sont pas vraiment apparentés, et j'ai inclus le terme de réversion, c'est un changement de polarité de caractère. D'accord ? Et cette homoplasie, cette évolution convergente ou parallèle, elle est généralement liée à des contraintes environnementales. Pour illustrer ça, ça devient faiblard. Un hareng, un pingouin et un dauphin, vous voyez que d'une manière générale, ils ont une forme du corps qui est relativement semblable, qui est fusiforme, adaptée à un milieu de vie aquatique, un milieu en vie aquatique. Ça, c'est une contrainte environnementale. Et pourtant, c'est des animaux qui ne sont pas vraiment étroitement apparentés, puisque lui, c'est un poisson, lui, c'est un oiseau, et lui, c'est un mammifère. Alors, ces homoplasies, donc ces caractères hérités, parfois, ils ne sont pas reconnus comme tels, et ça peut conduire à des interprétations qui sont folkloriques, du moins erronées. Par exemple, si on prend en considération un lézard, un chien et un homme, donc on a un reptile et deux mammifères, d'accord ? Mais ça, à la base, on ne le sait pas, on considère qu'on ne le sait pas. Si on prend juste le caractère présence d'une queue, ce caractère, il va faire en sorte que lézard et chien sont plus étroitement apparentés entre eux que chacun d'eux ne l'est avec l'homme. D'accord ? Par contre, si on prend plusieurs caractères, comme la présence de poils, une mandibule formée d'un seul os, l'allaitement, d'autres caractères encore qu'on peut trouver sans aucun problème, à ce moment-là, on se retrouve avec le chien et l'homme qui sont plus étroitement apparentés entre eux qu'ils ne le sont au lézard, et là, ça correspond beaucoup plus à la réalité. Donc en fait, la phénétique, comparaison des ressemblances, ça devient une méthode pertinente lorsqu'on compare un grand nombre de caractères, puisque à ce moment-là, d'un point de vue statistique, le nombre d'homoplasies, donc de caractères non hérités, devient pratiquement négligeable. Donc, c'est simplement pour dire que quand on fait de la phylogénie, quand on essaie de trouver des relations de parenté entre les différents organismes, on ne peut pas sérieusement se baser sur un ou deux caractères. Il faut, dans la mesure du possible, utiliser le plus de caractères possible pour avoir un résultat qui soit le plus congruent possible, le plus correct possible. Alors, ces phylogénies, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à les reconstruire? Pourquoi est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on s'amuse à faire des phylogénies? En fait, il y a deux raisons principales pour faire ce genre d'exercice. D'abord, c'est que la phylogénie, c'est la base de l'identification et de la classification des organismes, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Ça permet de ranger un organisme au sein d'une série de boîtes, de voir comment il est rangé par rapport aux autres organismes, et puis de voir aussi ses relations de parenté par rapport aux autres. D'accord ? Par exemple, si j'ai devant moi un fossile de, 40 millions d'années, et ce fossile, il est relativement primitif, je me demande si c'est un rhinocéros primitif, un cheval primitif ou un tapir primitif. C'est important de le savoir pour moi. Malgré la morphologie, si je le compare, je n'arrive pas à trancher pour l'attribution de ce fossile. Par contre, si je commence à faire de la phylogénie, à prendre les caractères qui caractérisent ce fossile et à les coder, à leur donner une polarité pour mon fossile et pour les autres fossiles pour lesquels j'ai un doute, j'arrive à une phylogénie, un arbre phylogénique comme ceux que je vous ai montrés auparavant, et là, j'ai des chances pour que le fossile que je n'arrive pas à ranger, eh ben, il va se retrouver à une place précise dans ma phylogénie. Et donc, ça m'indiquera que, bon, ben, avec tout cet ensemble de caractères que j'ai regardé sur mon objet, eh ben, il y a des chances pour qu'il soit plutôt apparenté à tel ou tel groupe. Donc, ça, c'est un outil aussi qui peut aider à trancher pour la taxonomie, pour la systématique. Il y a une deuxième raison pour laquelle les phylogénies, c'est important pour nous, paléontologues, entre autres, c'est qu'elles aident souvent à expliquer pourquoi ou comment une espèce a pu développer certaines adaptations plutôt que d'autres. Alors pour ça, j'ai pris l'exemple de l'évolution de la bipédie. La plupart des scientifiques considèrent actuellement que le chimpanzé et l'homme sont plus étroitement apparentés entre eux que chacun de nous ne l'est au gorille. La plupart des scientifiques, enfin, une grande partie des scientifiques pensent que c'est comme ça. Si on veut savoir, si on voudrait essayer de savoir comment est apparue la bipédie, on va se demander d'abord si l'ancêtre de l'homme, du chimpanzé, du gorille, c'était un knuckle walker, hein, vous rappelez, un animal qui repose ses membres antérieurs sur les phalanges des mains, ou si c'était un animal qui ne marchait pas sur ses phalanges, qui était par exemple quadrupède dans les arbres. Bon. Donc on va partir de ces hypothèses-là. Si on considère que l'ancêtre était un knuckle walker, à ce moment-là, le caractère knuckle walker, il est apparu une fois chez l'ancêtre commun, il a été conservé chez le gorille, il a été conservé chez le chimpanzé, et puis, à un moment donné, la bipédie a évolué chez l'homme. Par contre, si on considère que l'ancêtre commun, homme, chimpanzé, gorille, n'était pas un knuckle walker, à ce moment-là, ça voudrait dire que le knuckle walking a évolué une fois chez le gorille, puis a évolué une autre fois chez le chimpanzé, et que, bon, la bipédie, elle, comme précédemment, elle a évolué pour l'homme. Donc on a deux scénarios, vous voyez, un scénario où la locomotion knuckle walker est apparue une fois, et un scénario où il est apparu deux fois. Actuellement, les scientifiques, enfin les spécialistes, ont tendance à penser que ce serait la première hypothèse qui aurait le plus de chances de s'être produite. Simplement parce que quand ils ont étudié l'anatomie de la main de l'homme, bon, ils ont trouvé quelques caractères discrets qui rappellent qu'ils auraient pu avoir un ancêtre knuckle walker. Bon. Enfin, c'était simplement pour vous montrer que on peut avoir différents scénarios, que la phylogénie, bah, ça permet d'expliquer ou de démontrer différents scénarios pour l'évolution d'une adaptation. Et donc, bah, voilà le genre de phylogénie auquel on peut arriver. Hein. Ce genre-là, ce type de phylogénie, bon, vous l'avez vu dans les illustrations précédentes que je vous ai montrées. Et puis, on peut avoir des choses beaucoup plus complexes, comme ça. Bon, celle-ci, elle reprend la phylogénie de façon extrêmement simplifiée, depuis les bactéries jusqu'aux plantes, les champignons, les animaux. Bon, une phylogénie, c'est quelque chose qui ressemble à ça, donc une représentation graphique des relations de parenté entre différents êtres vivants. Donc, en conclusion, bah, je voudrais dire que c'est finalement grâce à la combinaison de toutes ces méthodes d'études et d'analyse qu'en paléontologie, eh ben, on peut utiliser la forme pour retracer l'histoire de la vie. Et grâce à ça, on sait par exemple que Toumaï, eh ben, il vivait il y a 7 millions d'années. Bon, ça, on le sait grâce à des datations radiométriques très récentes. Mais on s'en doutait auparavant aussi grâce à la biochronologie. La biochronologie, c'est une façon de proposer un âge en fonction de l'étude des fossiles associés. En gros, on étudie l'état évolutif des fossiles qui sont associés, par exemple, à Toumaï. Ça nous permet de dire c'est telle bestiole. On peut les comparer avec le même genre d'animal qui vivait dans d'autres régions d'Afrique. Et on compare, on dit celui-ci il est plus récent, celui-ci est plus primitif, celui-ci est plus évolué, donc ça pourrait être plutôt tel âge. Donc, c'est la biochronologie. Et la biochronologie, elle est basée sur la forme, sur la morphologie. C'est aussi grâce à cet ensemble de méthodes qu'on peut dire maintenant que Toumaï, avec certitude que Toumaï est un hominidé, grâce à des caractères morphologiques, grâce à la morphologie, à la forme. Et il reste encore du travail à faire, entre autres sur Toumaï. Par exemple, déterminer, si possible avec précision, les relations de parenté précises qui existaient entre Toumaï et les autres hominidés. Une autre question aussi qui est importante, c'est est-ce que Toumaï était bipède ? Ces questions, vraisemblablement, c'est la convergence, c'est l'ensemble de toutes ces informations qui devraient permettre d'y répondre. Je vous remercie.